Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci de commencer cette semaine en notre compagnie. Séquence Midi, c'est en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on va parler d'une première dans la Vienne, c'est la possibilité de recycler les ballons d'eau chaude. Ce sera en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, on reçoit Benjamin Carré qui est directeur de la mission locale d'insertion du Poitou. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour puisque la MLIP vient de recevoir un label du réseau national des missions locales. Alors déjà, félicitations pour ce label.
Merci.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que ça représente, cette labellisation pour la mission locale d'insertion du Poitou et pour les jeunes que vous accompagnez?
Alors, je commencerai par les jeunes. Finalement, c'est important. Et puis, je prendrai une dimension plus large que celle de la mission locale d'insertion du Poitou. En fait, ce processus de labellisation, il touche l'ensemble du territoire national et donc l'ensemble des missions locales. Et du coup, il offre la garantie pour un jeune, où qu'il soit en France, d'avoir un niveau de service satisfaisant, en tout cas un certain nombre de critères. Et donc, en tout cas, une offre de service homogène sur l'ensemble du territoire français, évidemment, aussi dans les départements d'outre-mer.
Et donc, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans cette démarche de labellisation? C'était justement obligatoire pour toutes les missions locales de passer par là? Quels étaient les objectifs?
Oui, ça avait un caractère obligatoire. À la fois, il permettait justement au réseau de cultiver son identité, hein, de la consolider. Et puis, évidemment, il y avait aussi une demande justement de l'État, qui est notre principal financeur, de veiller justement à une homogénéité d'offres de services sur l'ensemble du territoire.
Et quel a été le processus d'obtention de ce label? Est-ce qu'il y a eu des défis à surmonter? Comment ça s'est passé?
Alors, il a fallu mettre la mission locale et donc là, la mission locale d'insertion du Poitou, centrée sur ce défi, hein, je dirais, puisque en effet, on était mesuré, évalué en fait sur 35 critères. Donc, ce n'est pas rien, allant de la gouvernance au management, à l'offre de services justement à destination des jeunes. Donc, finalement, on a mis toute l'équipe en groupe projet pour ce faire. L'idée étant de réunir finalement par rapport à ces 35 critères, ces 35 items, un ensemble de preuves qui permettent aux auditeurs finalement de se dire, bon voilà, il y a des choses affichées, ces choses affichées, elles sont attestées finalement par un nombre de preuves qui sont fournies, des listes d'émargement, des signatures d'administrateurs, des signatures de présence de jeunes sur des ateliers collectifs par exemple, etc., etc.
C'est ça, c'est qu'il y avait un audit, une commission nationale qui regardait votre dossier. Vous avez commencé à les aborder. Quels sont les principaux critères qui étaient évalués pour obtenir ce label?
Alors, par exemple, ce qui était volumineux, hein, finalement, c'était en effet l'offre de services à destination des jeunes. C'est assez logique. Donc, finalement, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, hein, ces listes d'émargement, pardon. Mais aussi, finalement, l'implication des jeunes dans la dynamique de l'association. C'est vrai qu'on prend le temps aussi par les jeunes d'être évalués. Et ça, on n'attend pas finalement d'être audités. Ils participent à des ateliers. On vise à savoir quel est évidemment leur niveau de satisfaction par rapport à ces ateliers collectifs.
Et une fois que vous avez ce label, quels sont les engagements que vous prenez en tant que structure labellisée? Est-ce que ça implique des changements dans le quotidien de la structure?
Alors, pas vraiment, parce que on était de toutes les manières très volontaires, finalement, dans ce processus-là. Ça permettait justement de venir caractériser et consolider une offre de services existante. Donc, c'est plutôt une continuité, hein, et pas, je dirais, un axe de progrès insurmontable. Les choses, on les fait, mais c'était très intéressant, justement, et notamment auprès de l'équipe, hein, de la mission locale d'insertion du Poitou, de lui donner l'occasion de donner de l'épaisseur, de la profondeur, donc justement à une offre de service à destination des jeunes.
Et de valoriser en fait le travail que vous faites déjà en réalité, c'est ça?
Tout à fait, c'est bien ça.
Alors vous accompagnez près de 4000 jeunes chaque année. Concrètement, justement, qu'est-ce que vous leur proposez à ces jeunes?
Alors, on propose en fait, puisque je dirais ça fait vivre l'association, de contractualiser l'accompagnement à travers des dispositifs d'insertion qui sont proposés par l'État. Contractualiser, c'est faire en sorte que le jeune ne vienne pas non plus consommer les services de la mission locale, mais finalement signe des engagements de démarche, de mise en œuvre, d'étapes de parcours qu'on lui aide évidemment à inscrire, écrire. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle contractualisation. Ensuite, évidemment, ces étapes, ça peut être faire des stages, visiter des entreprises, être aidé, plutôt accompagné sur des démarches de recherche de contrat en alternance, parce qu'on parle entreprise, mais effectivement, on va utiliser cette phase d'apprentissage, pour la préparation d'un diplôme. D'autres veulent entrer directement dans la vie active s'ils sont déjà diplômés. Bref, finalement, l'accompagnement d'une mission locale, il est sans limite. On part évidemment toujours des besoins du jeune et donc cet accompagnement, je dirais qu'il est tout simplement protéiforme, il s'adapte à la situation du jeune.
Donc c'est la mission locale d'insertion du Poitou et pas forcément de Poitiers. Donc vous êtes présent un peu sur tout le territoire, Grand Poitiers, au Poitou. Comment vous développez sur ce territoire, notamment en zone rurale ?
Alors la force d'une mission locale, effectivement, c'est de cultiver toujours et toujours sa proximité. On parle souvent aujourd'hui du zéro kilomètre. Alors c'est aussi un sacré défi. On ne fait pas de porte à porte. C'est pas dans nos missions. Mais en tout cas, on tend à se rapprocher et à apporter en effet l'offre de service au plus près de chez soi. Évidemment, les jeunes et nous-mêmes, ça a vite une limite. On est tributaire des réseaux de transport, de l'accès, je dirais, aux abonnements, aux aides aussi sociales qui existent par rapport au transport. Mais c'est justement l'accompagnement qu'on met en place en premier lieu qui vise à lever quelques freins, et notamment ceux de la mobilité, pour rendre finalement accessible l'offre de services d'une mission locale.
Et alors, donc, cette labellisation, ça y est, c'est fait. Plusieurs mois de travail de toute l'équipe. Quels sont les prochains défis que vous fixez ?
Alors en fait, la labellisation, il a amené, c'est ce qui était très intéressant, à renouveler le projet associatif. Donc effectivement, ça a été un travail en fait de 3 années. Il a fallu remettre aussi les équipes dans un mode participatif. Ce n'est pas un projet associatif de la direction ou d'une personne, je dirais, nommée à la mission locale. C'est le projet associatif d'une équipe et d'une structure. Et donc ensuite, ce projet associatif, il a été traduit en fait en fiche action pour justement bien viser l'amélioration de nos services. On a consulté 500 jeunes, par exemple, justement pour nous aider et qu'ils requalifient finalement cette offre de service et qui nous pousse à l'améliorer. Donc voilà, ces fiches action visent à toujours intégrer finalement les jeunes dans les services que l'on propose. Et puis, finalement, à arrêter des ateliers parce qu'ils ne trouvent pas leur public, parce qu'ils sont trop critiqués. Il ne faut pas avoir peur du mot. Et puis, à en réinventer d'autres, ce qui fait qu'une mission locale, finalement, est un espace d'échange et, je dirais, d'innovation sociale. Et donc, on s'y efforce tous les jours.
Et peut-être un dernier mot par rapport aux jeunes qui nous écouteraient. Dans quel cadre ils doivent venir vous voir ? Ils peuvent venir vous voir ? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre comme accompagnement ? À qui vous vous adressez en réalité ?
Alors, on s'adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans une fois qu'ils sont sortis du système scolaire et donc sur la base du volontariat. Et encore une fois, on va s'adapter effectivement à lui, à ses besoins. Et donc, avant toute chose, un jeune peut venir nous trouver, je dirais, sans enjeu parce que la mission locale, c'est d'abord un espace d'écoute.
Merci beaucoup, Benjamin Carré, d'être venu dans Séquence Midi fêter cette labellisation. 3 années de travail pour obtenir cette labellisation nationale et qui donc conforte vos missions auprès des jeunes du territoire. Merci beaucoup.
Merci.
On continue avec Lucky Love. Vous vous rappelez peut-être de lui. C'est lui qui avait enchanté la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Il a sorti une nouvelle version de son titre « Happier on my own » pour lancer son album « I don't care if it burns ».
Like a brand new person. No more waste on my Dans la clarté.
Pulsar, c'est bon.
D'accord, personne ne dit le contraire.
Point d'exclamation.
Philippe Cheminot, directeur des opérations pour Écosystème, est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous pour nous parler d'une première mondiale qui se passe dans la Vienne, en Nouvelle-Aquitaine, la création d'une filière industrielle française de dépollution des ballons d'eau chaude. Alors déjà, en quoi consiste cette question-là? En quoi c'est une problématique, la question des ballons d'eau chaude?
Oui, vous avez raison de démarrer par la première question. Pourquoi les ballons d'eau chaude, c'est un problème? Alors, quelques chiffres rapides. Il se vend par an entre 1,7 million et 1,9 million de ballons d'eau chaude neufs. Et on considère qu'il y a 15 millions de logements en France qui sont équipés de ces ballons d'eau chaude. Et ces ballons d'eau chaude, lorsqu'ils arrivent en fin de vie, eh bien, ils sont remis aux filières de recyclage. Et ces ballons d'eau chaude sont tapissés d'une mousse isolante qui contient des gaz qui sont très impactants pour l'environnement. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de filière industrielle pour capter ces gaz. Et c'est ce que Écosystème a décidé et a lancé un appel à projet pour des sites industriels bien disposés sur le territoire national puissent capter un gisement important, puisqu'on parle de 120 000 tonnes par an donc de ballons d'eau chaude en fin de vie, 120 000 tonnes par an, et donc des sites qui sont dédiés à la dépollution, l'extraction des gaz qui sont dans ces ballons d'eau chaude.
Et alors, racontez-nous comment est née l'initiative. Vous vous êtes entouré pour réussir à mettre en œuvre ce projet.
Alors, on a été une réglementation européenne puis française hein, qui stipule que tous les appareils qui détiennent des gaz fluorés hein, qui impactent l'ozone doivent être extraits en milieu, ces gaz doivent être extraits en milieu confiné. Donc ça, c'est le fondement de notre démarche. Et puis, nous, on est un éco-organisme. Donc nous, on est agréé par l'écosystème, est un éco-organisme agréé par l'État français. Et notre mission, c'est de collecter et recycler tous les déchets électriques et électroniques que les Français produisent par an. Et donc, les ballons d'eau chaude en font partie. Et donc, ça fait partie de notre mission. Et donc, on a lancé un appel à projet qui a consisté à identifier des industriels qui étaient prêts à investir pour, à partir d'un certain de gisements régionaux, collecter ces ballons d'eau chaude, trouver une manière de capter les gaz qui sont isolés dans ces mousses isolantes. Et nous, Écosystème, nous prenons en charge le coût de captation et de destruction de ces gaz. Voilà la manière dont nous avons articulé cet appel à projet.
Et justement, comment fonctionne ce système, ce processus de dépollution de ces ballons d'eau chaude? Comment on arrive à capter ces gaz polluants?
Oui, alors les ballons d'eau chaude, une fois qu'ils sont en fin de vie, sont emmenés dans des sites industriels qui alimentent un broyeur, hein, un broyeur qui est dans une chambre confinée. Et donc, à partir du moment où on va broyer l'acier, hein, qui est la coque du ballon d'eau chaude, on va extraire, laisser apparaître la mousse isolante qui est à l'intérieur, et par broyage, on va tout transformer en petites fractions, et ces fractions vont être séparées selon la densité en acier, en aluminium, en cuivre, et aussi donc en mousse, cette fameuse mousse qui contient des microbules contenant des gaz. Et donc, au moment où la mousse est broyée, déchirée, les gaz s'échappent et par captation, avec des systèmes d'aspiration très puissants, ils sont aspirés, ils sont refroidis pour ensuite être mis dans des bouteilles sous pression et ces bouteilles sous pression, nous les envoyons dans des sites spécialisés dans la destruction de déchets dangereux. Ils sont incinérés sous contrôle avec des filtres pour qu'il n'y ait aucun échappatoire des rejets de ces gaz. Voilà comment ça se passe.
Et pour bien comprendre, jusqu'à présent, les ballons d'eau chaude sont envoyés où? Quels sont les risques de pollution? Ils ne sont pas considérés pour l'instant comme des objets...
Déchets dangereux. Voilà, déchets dangereux, absolument. Bah, jusqu'à présent, ces ballons d'eau chaude étaient vous comme moi, ou le plombier, ou le chauffagiste, qui récupéraient un ballon d'eau chaude en fin de vie, qui en mettait un neuf à la place. Eh bien, il le remettait à un récupérateur, à un opérateur de recyclage, et c'était envoyé dans des broyeurs pour voitures. Voilà. Et au même titre que les voitures, c'était broyé pareil que les voitures. Et donc, les gaz partaient dans l'atmosphère. Et donc, ces gaz ont un effet effectivement très impactant dans l'atmosphère. Ces impacts sont de trois ordres. Pour les ballons d'eau chaude qui ont plus de 15 ans d'âge, ce sont des gaz qui sont très impactants et qui détruisent la couche d'ozone qu'on trouve dans les couches supérieures de l'atmosphère, notamment au-dessus du pôle Nord et du pôle Sud, et qui justement nous protège des ultraviolets. Donc ça, c'est des vieux gaz, et donc il faut absolument les récupérer.
Ça nous fait penser à tous ces produits qui ont été interdits, aux réfrigérateurs aussi, les produits qui ont été interdits à une époque.
C'est la même famille de gaz.
Avec le trou dans la couche d'ozone qui a fait beaucoup parler de lui à une période.
Absolument, vous avez tout à fait raison. Et donc, on a fait énormément de progrès pour réduire ce trou d'ozone au-dessus du pôle Nord, du pôle Sud. Et donc, ces gaz qu'on retrouve dans les vieux ballons d'eau chaude, ben, comme ils pourraient encore aggraver ou freiner, parce que ça s'améliore, hein, ce problème du trou d'ozone, eh ben, on les capte à travers avec cette nouvelle filière industrielle. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, ben, bien entendu, ces gaz restent très longtemps dans l'atmosphère. Et en plus, de détruire cette couche d'ozone participe au réchauffement de la planète parce qu'il reste dans l'atmosphère bien plus longtemps que le CO2. Hein. Le CO2, la durée de vie d'une molécule de CO2, c'est une centaine d'années. Les gaz fluorés, c'est entre 200 et 5000 ans. Donc, c'est vraiment très impactant, alors qu'en termes de quantité, il y en a beaucoup moins. Mais comme ils restent très longtemps, ils ont un effet réchauffement beaucoup plus important. Et puis le troisième impact, c'est sur les nouveaux gaz, puisque maintenant les nouveaux ballons d'eau chaude qui viennent sur le marché n'utilisent plus ces gaz fluorés impactants, utilisent du pentane, qui est un dérivé du pétrole. Donc le pentane n'a pas d'impact sur la couche d'ozone qui nous protège, mais en revanche, ce pentane est un élément qui participe à la pollution et à la création de ce qu'on appelle le mauvais ozone, c'est-à-dire l'ozone qu'on trouve dans les basses couches de l'atmosphère pendant l'été. Vous voyez, quand par exemple l'autoroute, c'est marqué, vous passez de 130 à 110 km/h, réduisez votre vitesse parce qu'il y a une alerte à la pollution d'ozone. Et bien, ce mauvais ozone qu'on trouve dans les basses couches de l'atmosphère, le pentane y participe aussi. Et donc, en captant le pentane sur les ballons d'eau chaude plus récents, on participe aussi à éviter cette pollution des basses couches de l'atmosphère.
Donc vous avez choisi plusieurs sites en France pour traiter ces ballons d'eau chaude, notamment au Vigan. Comment vous avez sélectionné ces différents emplacements industriels?
On a fait un appel à projet et par des critères, notamment sur la qualité du dossier, notamment la robustesse technique, parce qu'en fait, on est les premiers à faire ça. Donc, on a évalué vraiment toute la performance technique que nous proposaient les candidats. On a regardé, bien entendu, aussi le positionnement, parce qu'on ne voulait pas, on s'est inscrit dans une démarche de zéro artificialisation des sols, c'est-à-dire on a pris des sites existants ou des vieilles usines ou des sites industriels qui étaient en jachère. Et donc, on a identifié ces zones-là, trouvé des industriels qui étaient avec des dossiers extrêmement solides, et donc, on les a choisis. Et donc, au bout du compte, on a six usines qui vont sortir de terre, et la première qui est opérationnelle et dont nous avons fait le démarrage officiel avec un baptême, c'était donc au Vigan, c'était il y a à peine 15 jours, qui va donc couvrir tout le Grand Sud-Ouest et donc capter tous les ballons d'eau chaude qui arrivent en déchetterie ou chez les distributeurs et les traiter au Vigan. Il y aura un deuxième site industriel qui va voir le jour près de Lille, un troisième en septembre près de Paris, un quatrième fin 2026 près de Metz, un autre près de Lyon et enfin un dernier près de Nantes. Voilà. Et donc, avec ces sites industriels, on aura un maillage qui va nous permettre d'aller chercher ces 120 000 tonnes de ballons d'eau chaude en fin de vie qui sont produits tous les ans par les Français.
Et comment vous allez aussi peut-être sensibiliser les gens, les plombiers, les chauffagistes, les particuliers d'apporter des ballons d'eau chaude en déchetterie peut-être pour qu'ils soient recyclés et qu'on ne revende pas pour, au poids du métal en fait.
Oui, vous avez raison. Alors, les plombiers, les chauffagistes, on passe à travers les fabricants de ballons d'eau chaude qui ont fait un petit film et qui font des sessions pour vraiment sensibiliser tous les artisans plombiers, tous les chauffagistes, tous les distributeurs d'équipements de type ballon d'eau chaude, qu'il faut absolument que lorsqu'ils récupèrent un appareil en fin de vie, qu'ils l'apportent vers la bonne filière. Donc, sur notre site internet, on a toute la liste des récupérateurs qui sont agréés pour recevoir ces ballons d'eau chaude et ensuite les acheminer vers le centre de traitement et là, typiquement vers le Vigean.
Donc là,
et concernant les particuliers, je pense que nous on s'aperçoit à travers tous nos déplacements sur le territoire, c'est que la plupart de nos concitoyens sont tout à fait sensibles et ont une bonne connaissance en fait des équipements qui ont un caractère impactant pour l'environnement et font très souvent le très bon geste, l'apporter à une déchetterie ou un récupérateur qui est habilité.
Donc là, l'objectif, c'est de quel est le pourcentage de ballons d'eau chaude ou le nombre de ballons d'eau chaude qui doivent être traités dans les prochaines années?
Alors nous, notre objectif, on ne parle pas en unité, on parle en tonnes. Hein. On veut traiter d'ici 2027 100 000 tonnes de ballons d'eau chaude par an, ce qui va représenter grosso modo 80% du parc de ballons d'eau chaude en fin de vie. Et voilà, c'est un objectif premier. Les 20 000 qui nous manquent, c'est un gros travail de pédagogie qui va consister à aller voir des professionnels ou des personnes qui ne sont pas forcément au courant de la manière qu'il existe aujourd'hui maintenant, une filière industrielle dédiée pour ces équipements.
Merci beaucoup Philippe Chemineau, vous êtes directeur des opérations chez Ecosystem et donc vous étiez là pour nous parler de cette première filière industrielle française de dépollution des ballons d'eau chaude et donc la première industrie, c'est dans la Vienne, au Vigean. Merci beaucoup.
Merci à vous, bonne journée.
Bonne journée, on continue avec le Toit du Monde et grâce à eux, on parle du pacte du pouvoir de vivre avec France Joubert.
Bonjour France Joubert, tu es coordinateur départemental du pacte de pouvoir du vivre.
Oui,
Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi il consiste et puis nous dire après quelques perspectives sur son action?
Alors le pacte du pouvoir de vivre, et si on resitue... Sa naissance était très grave en France, puisqu'on avait eu une succession de mouvements très forts à partir de Charlie Hebdo, à partir des Nuits Blanches, des Gilets jaunes par la suite, et se profilaient les restes de la crise économique. Et donc il y a une succession de crises depuis cette époque qui a fait dire aux mutuelles, aux syndicats, le plus souvent réformistes, qui ont toujours du mal un peu à se faire entendre dans un système assez bipolaire en France. On a donc voulu montrer qu'il y avait plutôt des réformes et des propositions à faire et de plutôt se responsabiliser vis-à-vis de la situation. Donc on a créé à 69 organisations, on a créé le pacte du pouvoir de vivre au niveau national qui fonctionne maintenant, newsletter, site, enfin on peut aller sur son site.
Et au niveau local, ça rassemble qui?
Alors au niveau local, c'est une vieille tradition du Poitou-Charentes. On essaie de reproduire au niveau local, de produire au niveau local ce qui s'est passé au niveau national et comment on le décline avec nos responsables ici. Donc ça a été un peu particulier parce que rapidement on a construit aussi ce système avec le centre social, la CFDT, le Secours catholique, la mutualité, les francas. Au départ, il y a eu la FAGE aussi qui a été présente. On a regroupé la CIMAD qui travaille aussi avec la CFDT. Et donc, on a regroupé et on a fait fonctionner sur le territoire un comité de pilotage avec ces organisations et sur le terrain, des actions très précises.
D'accord. Et alors, donc, il y a eu, je crois, le 27 mars dernier à Buxerolles une réunion locale.
Oui.
Elle a consisté à quoi et quelle perspective elle a donné pour 2025?
Alors, la réunion locale refaisait le point de toutes les réunions qu'on avait eues dans chaque ville, hein, Civray, Loudun, Montmorillon, Châtellerault. Donc, on a repris on a focalisé sur le fonctionnement des démocraties. Notre propre fonctionnement à nous, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il ne pose pas de problème? Est-ce que dans nos organisations, ça cause? Est-ce que les gens qui pensent peuvent s'exprimer? Et puis aussi, par rapport au reste de la population, comment aller vers les autres? Il se crée toujours des associations. On prend les journaux tous les jours, il y a quelque chose qui parle de solidarité. Et puis, en même temps, bien sûr, interpeller les élus dans l'avenir, la municipalité, les mairies, les élus au niveau national.
Une espèce de coordination des initiatives de solidarité
local. On ne veut pas monter de structure, quoi. On est très horizontal, on exprime là où on n'est pas les meilleurs non plus. Hein. Donc chaque citoyen est en train de construire le système, reconstruire, régénérer la démocratie, c'est ça le mot d'ordre.
Merci beaucoup, France, et longue vie au pacte du
pouvoir
de vivre.
Oui, merci aussi.
Et merci au Toit du Monde et à Dominique Royoux pour cette rencontre. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. La conférence régionale Innovae dédiée à la promotion de l'activité physique et la lutte contre la sédentarité a lieu cet après-midi simultanément dans les trois hôtels de région de Nouvelle-Aquitaine. C'est proposé par l'association Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine et soutenu par l'Agence régionale de santé et la région Nouvelle-Aquitaine. C'est de 13h30 à 17h30 dans les hôtels de région de Bordeaux, Limoges et Poitiers. Cette conférence annuelle sera notamment l'occasion de présenter les résultats d'une vaste enquête régionale visant à préciser l'activité physique des jeunes néo-aquitains. La rencontre permettra également d'envisager les pistes d'action dans le cadre des différentes politiques, dans le programme régional Tu bouges tes biens. L'après-midi sera rythmé par plusieurs prises de parole, qu'il s'agisse d'administration en charge des dispositifs promouvant l'activité physique, de collectivités impliquées, de chercheurs et observatoires qui étudient ces enjeux, ou encore d'associations et clubs qui œuvrent concrètement sur le terrain. La conférence Innovae est gratuite et ouverte à tous et toutes. En mai, célébré le Mois de l'Europe à Poitiers, conférence La Pologne à la présidence du Conseil de l'UE. C'est organisé par le Centre Europe Direct Poitiers-Vienne-de-Sèvres et l'Université Interage de Poitiers. C'est de 14h30 à 16h à l'ENSI, rue Marcel Doré, bâtiment B21, amphi Briançot. L'entrée est libre. Et enfin, une soirée salsa, bachata, kizomba, c'est à 21h15 au République Corner. Soirée donc SBK après les cours de bachata par DJ Alex. Les cours, c'est à partir de 20h, niveau débutant évolutif, et c'est chaque lundi, l'entrée est gratuite. Sur Pulsar, retrouvez à 18h And The Tap Trips, à 19h c'est X-Bull, la bande dessinée, à 20h c'est Punks, et à 21h des lives dans Scrognogneux. C'était Grégory et la réalisation technique. Merci, on se quitte avec Underground et Nastasia Pagadini. Wait for the rain. Bonne écoute, à demain.